Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Café OBN en direct de la galerie de presse du Stade IGA. Alex Régébal, la compagnie de Hugues Léger. Hugues, on est rendu à journée de quart de finale. Il en reste moins qu'il en restait.
Journée de quart de finale, on est toujours sur le cours central dans notre studio Mazda des Sources de Larry. Avec une journée quand même excitante en deux temps. Les matchs qui vont attirer surtout l'attention, je dirais, sont en session de jour aujourd'hui. Donc, Kyrgios d'entrée de jeu contre Urkash, suivi de Casper Ruud contre Félix Auger-Aliassime. Les deux chouchous du tournoi, je pense, il va s'en dire. Évidemment, Félix, mais Nick Kyrgios a trouvé son public à Montréal aussi, visiblement.
Ouais, c'est vrai. Mais là, on peut quand même espérer une demi-finale Kyrgios, Félix Auger-Aliassime. Ouais. On n'est pas là encore. Revenons d'abord sur ce qui s'est passé hier, Hugues Léger. Bon, commençons à tout seigneur, tout honneur avec Félix. On savait que Cameron Norrie était un adversaire coriace parce qu'il s'est affronté la semaine passée, il avait perdu.
Ouais.
On se doutait qu'il y avait un esprit de revanche dans ce match-là. Et hier, Félix a démontré sa supériorité, particulièrement au deuxième set.
Oui, Kyrgios. Félix avait dit dans sa conférence de presse après son premier tour qu'il avait appris de son match contre Cameron Norrie à Los Cabos la semaine dernière et qu'il avait de l'information fraîche en tête qui l'aiderait à jouer son match de cette semaine. Et ça a paru. Il a été tout en confiance depuis le début. Il a maîtrisé ce match-là. Il a beaucoup mieux servi que la veille. Mm-hmm. Donc, il était plus tranquille pour breaker quand c'était le service de Norrie. Donc, Félix, très, très solide performance hier. Moi, j'ai beaucoup de confiance en son jeu. Et on sait... Dans chaque tournoi où il progresse, on dirait qu'il joue de mieux en mieux de match en match. Et c'est ce qu'on a vu hier. Beaucoup de jeux à zéro sur son service. Sa tactique fonctionnait, sa technique fonctionnait hier soir. Belle performance de Félix.
Cameron Norrie s'est comme écroulé dans une partie cruciale au service. Il était incapable de passer trois doubles fautes, si je me souviens bien, dans cette même partie-là. Ben, alors qu'il allait offrir la possibilité à Félix de servir pour le match.
C'est ça qui arrive quand ton adversaire sert très bien. Ça te met beaucoup de pression sur ton service. Donc, il a essayé d'en faire un petit peu plus. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre son service et ça a craqué. Il a même fait venir le physio à un moment donné. Je pense que physiquement, il n'était pas à 100%. Beaucoup de matchs depuis quelques semaines pour Cameron Norrie. Mais Félix a vraiment, vraiment démontré sa supériorité hier soir.
Autre bonne nouvelle dans le cas de Félix Auger-Aliassime, le match d'hier a été relativement court, ce qui n'a pas été le cas de son adversaire qui a été beaucoup plus long. Regardons ça un peu, ce qui va se passer de ce côté-là contre Casper Ruud. Tu t'attends à quoi, commentaire général, d'abord?
Je pense que le match-up est favorable à Félix sur une surface relativement rapide, comme la surface dure du central de l'Omnium Banque Nationale. Ça ne sera pas nécessairement un match facile. Ruud peut remporter des matchs sur dur aussi. Il l'a quand même prouvé aussi cette semaine. Mais je m'attends à un très bon match, peut-être un 3-7 aujourd'hui. Mais là, on revoit le finaliste de Roland-Garros. Il ne faut pas l'oublier. Casper Ruud, excellent joueur. Un métronome du fond de terrain. Donc, on va avoir encore un match-up attaquant du côté de Félix, plutôt relanceur du côté de Ruud. Ça devrait être vraiment intéressant.
Si vous ne connaissez pas Casper Ruud, il est présentement 7e mondial. Il a 23 ans, comme Hugues le mentionnait, et c'est un finaliste à Roland-Garros. Ouais. Est-ce que je peux le considérer comme un des top 3 meilleurs joueurs de terre battue au monde présentement, top 5?
Absolument. Moi, c'était mon choix pour Roland-Garros cette année. Il s'est rendu en finale, il ne l'a pas gagné. 4 titres sur terre battue, si ce n'est pas 5 en 2021. Je pense qu'il y en avait eu un sur deux l'an passé. Oui, assurément, un des deux ou trois meilleurs joueurs de terre battue au monde.
Ces deux gars-là se sont joués à quelques reprises chez les professionnels, deux fois dans des tournois de niveau ATP et deux fois dans des tournois de niveau Challenger.
Oui, ils se connaissent bien.
Ils se connaissent bien. Ils ont séparé les honneurs de ces 4 confrontations, 2 victoires de chaque côté. Par contre, fait intéressant, le seul match disputé sur surface dure, c'est Félix qui l'a gagné.
Oui. Je ne suis pas surpris. C'est une surface là, qui convient mieux au jeu d'attaquant. C'est un bon match-up pour Félix. Mais je dois dire, Alex, on ne l'a pas mentionné, premier Québécois en quart de finale à l'Omnium Banque Nationale, Félix Auger-Aliassime. On y a de quoi être très fier. Il y a une ambiance électrique quand il arrive sur le terrain. Beaucoup de respect au niveau de la foule, mais il y a une fébrilité qui est vraiment le fun, qui est propre à ces tournois à Montréal quand un Canadien fait bien, et encore plus un Québécois cette année.
Premier quart de finale du côté masculin, cela dit, parce qu'Alex Wozniak l'a fait, si je me souviens bien.
Merci de le préciser,
du
masculin,
côté, tout à féminin.
Fait. Oui.
et sans que je me tire trop longtemps, Hugues, hier, je regardais une petite statistique intéressante. La dernière fois que Félix Auger-Aliassime a battu Cameron Norrie, te souviens-tu de mémoire, là, je te lance complètement tout d'autobus, c'était où?
Non.
C'était à Rotterdam. Qu'est-ce qui s'est passé à Rotterdam?
Il a gagné le tournoi.
Félix a gagné le tournoi.
Premier
Alors,
titre.
Voilà, si le passé est garant de l'avenir, ça peut être intéressant. Gardez ça en tête. Ça va être intéressant parce que Casparo il est très bon. Ce sont deux joueurs qui se connaissent bien. Le dernier affrontement entre les deux, ça se passait le 4 mai 2021. Et ça avait été un match assez à sens unique, 6-1, 6-4 pour Kasparov, mais une fois de plus, c'est un match sur terre battue. Et en 2021, ben Kasparov a connu une séquence sur terre battue qui était complètement...
Qui l'a amené au top 10, en fait.
Phénoménal. Oui, bonne nouvelle oui. Aussi pour Félix dans ce match-là, j'en parlais. Le match de Kasparov hier a pris un peu plus de temps que celui de... beaucoup de matchs hier qui ont pris beaucoup de temps à un tel point qu'on est obligé de déplacer le match de Nick Kyrgios sur un court...
Le court Rogers.
Oui, parce qu'on a eu un peu de pluie, mais on a eu que 10 minutes de pluie ou à peu près. Alors, c'est pas la pluie qui a drastiquement changé l'horaire. Non. C'est vraiment la longueur des matchs hier. Félix a joué depuis le début du tournoi environ 3h20, 3h19 pour être exact.
Total.
Au total. 5h15 pour Casper Ruud. Alors, il a à peu près joué un match de plus en termes de moyenne de temps de jeu que Casper Ruud. Est-ce que ça peut être profitable pour un Félix qui a avancé beaucoup dans l'autre tournoi, qui est arrivé un peu plus tard? Est-ce que ça a encore un impact à ce moment-ci du tournoi?
Bon, deux points. Je pense que les joueurs commencent à le dire, dont Félix, qui sont un peu fatigués. C'est un élément qui joue, mais je pense qu'il a déjà bien récupéré. Casper Ruud, c'est son genre de jeu. Il est habitué à ça. C'est un joueur. Si ça avait été hier contre Batista Agut sur terre battue, ça aurait duré 5 heures plutôt que 3 heures, un peu plus que 3 heures. Donc, il est habitué à ça. Je pense que l'aspect physique aujourd'hui devrait pas être si important que ça. C'est plus au niveau tactique et au niveau habileté sur une surface rapide là, que ça va jouer aujourd'hui.
Prédiction pour Hugues Léger dans ce match-là. Est-ce qu'on revoit Félix Auger-Aliassime demain?
Si son service fonctionne comme hier soir, puis je pense qu'il va être content de jouer le jour parce qu'il n'était pas très content apparemment de l'éclairage, le premier soir en tout cas. Donc, je pense qu'il préfère jouer dans les sessions de jour aujourd'hui. Donc, si son service va comme hier soir, je mets Félix gagnant en 2-7 serré ou 3-7, mais Félix va passer.
Hier, il a terminé le match avec environ 80% et plus même de première balle passée. Ouais. C'est une excellente statistique, ça.
C'est énorme. Quand tu es en haut de 80, là, c'est difficile de perdre un match. Au pire, Ça sera en tie-break si jamais ton adversaire sert bien. Mais comme c'est le cas, comme ça s'est passé hier, son 80% au service a mis tellement de pression sur son adversaire là, que finalement, il a craqué.
On le dit souvent, si le service va, tout va dans le cas de Félix Auger-Aliassime. Et c'est très, très, très rassurant parce qu'on a vu son jeu s'améliorer de façon exponentielle depuis le début du tournoi. Alors, on a toutes les raisons d'être positifs pour ce match-là pour Félix Auger-Aliassime.
Et je pense que Félix perdra plus souvent contre Cameron Norrie. Je pense qu'il y a...
Il y a son numéro.
Oui, il a réglé son... L'énigme Cameron Norrie, là, qui est un gaucher compliqué à jouer, très régulier, demi-finaliste à Wimbledon cette année, mais je pense que sa performance d'hier soir contre Norrie l'a fait passer devant.
Vous nous écoutez en direct, vous avez des questions, vous voulez venir jaser avec nous, ben ça va nous faire plaisir, on est là pour ça, c'est pour ça qu'on le fait en direct, on le fait pas souvent en direct le podcast, mais pendant l'Omnium Banque Nationale, on fait tous les matins... on met la table en direct et ben, si vous avez des commentaires, vous ne vous gênez pas pour nous en faire part. Quand on regarde l'autre match, Nick Kyrgios contre Hubert Hurkacz aussi, c'est ce matin, ce midi, c'est le match d'entrée sur le central. Bon, à quoi ça tombe? Parce que tu l'as répété plusieurs fois en ondes au 91.9 dans tes différentes chroniques, au podcast. Nick Kyrgios est virtuellement le numéro un mondial présentement. On ne parle pas du classement, effectivement. Là, on parle qu'il est le meilleur joueur au monde en ce moment. C'est le gars le plus hot. Est-ce que tu t'attends à le voir passer, Hubert Hurkacz?
Je pense que oui. Kyrgios, en ce moment, et je regardais son pourcentage de victoires contre des joueurs du top 10, dont fait partie Hurkacz, là, et c'est un des meilleurs cette année. Il est 5-3 contre des joueurs du top 10 cette année. Tout juste derrière Nadal et Alcaraz. Donc, je pense que Kyrgios va battre Hurkacz aujourd'hui. Ça devrait être un bon match parce qu'Hurkacz, c'est quand même tout un serveur. Mais je pense qu'on s'enligne vers la demi-finale que tout le monde souhaite entre Kyrgios et Félix.
En tout cas, si on peut avoir une demi-finale entre le favori de la foule et peut-être un des plus grands showman sur le circuit de l'ATP, peut-être en ce moment le plus grand showman, parce que regarde, mon fils, sans rien lui enlever, il est sorti du tournoi. Alors, ça sera spectaculaire d'avoir un Félix contre Nick Kyrgios. Bon, quand on regarde cette confrontation-là, Hugues, ce qui est intéressant de voir, c'est que Nick Kyrgios est un excellent joueur de gazon. D'ailleurs, il a probablement un des meilleurs services, qui est toujours un avantage sur gazon.
Meilleur service, c'est une des meilleures mains, Il y a une touche incroyable. Il y a ce mix de puissance et de toucher de balle est tout à fait exceptionnel chez Kyrgios.
Et c'est un gars qui sert avec une cadence assez rapide. Lui, il ne part pas trop de temps entre les points. Ce qui est intéressant, si on avait un match entre Félix et Kyrgios, on aurait un clash des genres, parce que Félix est déjà en prendre un peu plus de temps entre les points.
C'est vrai.
C'est un des gars qui prend beaucoup de temps sur le circuit, alors que Nick Kyrgios, lui, vous êtes mieux d'être prêt à recevoir le service, parce que ça se peut que vous êtes en train d'être avec le ball boy ou avec la serviette et la balle est déjà partie. Là. C'est à cette vitesse-là que ça... Nick Kyrgios et Hubert Hurkacz ont joué un seul match, un contre l'autre, chez les professionnels, et c'est Hurkacz qui l'avait emporté. C'était sur gazon cette année à Halle, le tournoi de Federer, la deuxième maison de Federer après la Suisse.
Tout à fait.
Et ça avait été un match hyper serré.
Un
match qui aurait
pu aller... 3-7 avec deux tie-breaks.
Avec deux tie-breaks.
Oui.
Écoute, je pense que ces deux adversaires-là vont nous donner tout un spectacle aujourd'hui. Nick Kyrgios qui tente d'atteindre pour la quatrième fois de sa carrière une demi-finale en Masters 1000. Il n'a pas de titre en Masters 1000, Nick Kyrgios. Ce qui est le cas, par contre, de Hubert Hurkacz, qui a remporté, c'est le tournoi de Miami.
Miami,
hein?
Miami en 2020.
Oui.
2020 ou 2021?
Ouais, je pense que c'est 2021, mais je vais te confirmer l'information à l'instant, mon cher Hugues. Mais c'est tout ça pour dire que c'est un gars qui a remporté des tournois importants déjà dans sa carrière.
Oui, tout à fait. Très bon joueur, très solide, Hurkacz. Moi, j'aime beaucoup ce style d'attaquant, gros serveur, mais avec des bonnes mains au filet. C'est un all-around, all-court player, Hubert Hurkacz. Un des très beaux joueurs du circuit.
10e joueur mondial.
Très sympathique aussi. Hein. Mm-hmm. C'est un ami, partenaire de double à Félix aussi. Donc, voilà.
Alors, 2021, le titre ami de Hubert Hurkacz, qui par ailleurs est l'ancien partenaire de double de Félix Auger-Aliassime. Je sais pas, est-ce que tu te souviens du nom que ces deux-là portaient ensemble? Ubelix,
bon, voilà.
Si je me souviens, ils avaient remporté Paris ensemble,
exact.
En double, ce duo-là. Alors, intéressant, parce qu'il reste beaucoup de gens que Félix connaît bien dans le tableau. Kasparov, il l'a joué à quelques reprises. Ouais. Nick Kyrgios aussi, d'ailleurs, il l'a joué à quelques reprises. Et Hubert Hurkacz, il le connaît bien également. Vous entendez peut-être les avions, c'est qu'on est en direct
du
cours central au stade IGA. Et si vous prenez l'avion ici et là, vous savez que le parc Jarry est directement dans le couloir de l'aéroport. D'ailleurs, c'est pas rare que quand moi je reviens en avion, on peut voir le stade.
On a une très belle vue sur le site de l'Omnium. En ce moment, Félix, pour les auditeurs, là, est en réchauffement du matin sur le cours central.
Bon, on a la chance d'avoir dans notre bureau Félix Auger-Aliassime. Il y a pire que ça comme travail, mon cher Hugues.
Ça va.
Avant qu'on aille du côté des femmes et de parler de Bianca Andreescu, je veux qu'on regarde rapidement les deux histoires intéressantes en fin de soirée. Bon, la fin de soirée est peut-être avec des noms un peu moins connus, mais ce sont deux histoires, Cendrillon, celle de Tommy Paul et celle de Jack Draper dans deux matchs différents.
Je vais commencer par Jack Draper parce que c'est vraiment une histoire Cendrillon. Là. Il est un peu sous le radar du grand public cette semaine, Draper. 20 ans, grand gaucher, un gars de la Next Gen, qualifié. Donc, qui passe, qui se rend maintenant en quart de finale et qui sait s'il n'ira pas plus loin. Puis je retiens surtout son match contre Tsitsipas, qui a gagné en 2-7 extrêmement serré. Il a battu Tsitsipas, top 5 au monde, en 2-7. Il n'y avait aucun doute dans son jeu. Il a même battu Tsitsipas, je dirais, en puissance. Il m'a beaucoup impressionné, Jack Draper. Donc, jetons un coup d'œil là, très, très aiguisé sur Draper parce qu'il a une semaine exceptionnelle et on voit un joueur qui est en train de d'éclore sous nos yeux en ce moment.
Ouais, c'est un gars qui a joué beaucoup de challenges au début de la saison, mais je pense que cette époque-là est terminée si on se fie à son style de jeu. Je pense que Jack Draper, c'est un nom qu'on va entendre beaucoup dans la prochaine année et demie. On l'a un peu découvert ici à Montréal. Là. On le connaissait de nom, mais là, je pense qu'on en entend beaucoup parler. Ouais. Dans le cas de Tommy Paul, son parcours est quand même exceptionnel cette semaine parce que, bon, tu bats Vacek Pospisil à la maison. devant sa foule.
Ouais.
Tu bats Carlos Alcaraz, un des meilleurs joueurs sur la planète présentement. Puis peut-être un digne successeur au Big Three, là, peut-être qu'il est arrivé enfin le successeur. Et tu bats Marine Cilic, ancien champion de Grand Chelem, qui est encore capable d'un niveau de jeu exceptionnel. Si quelqu'un m'avait dit Tommy Paul va se retrouver encore de finale, je vous aurais dit que vous êtes fou.
Non, 34e mondial, Tommy Paul, mais il a une très, très belle semaine. Là, donc, il mérite entièrement d'être là. Et je reviens sur Draper. Là. Il est 82e mondial en ce moment. Il se retrouve dans les 8 derniers. Donc, pour lui, c'est une semaine en termes de points et de bourse qui va marquer d'une pierre blanche là, parce que c'est une semaine importante pour lui.
Intéressant pour Jack Draper. Ah, oui. Si tu y vas avec des petites prédictions de ce côté-là, est-ce que tu penses que... Tommy Paul va passer.
Je m'attends à ce que Tommy Paul et Jack Draper passent. C'est les deux gars en forme cette semaine là, qui ont bousculé des favoris. Donc, c'est ce qui se passe pour moi, selon moi, là, dans le haut du tableau.
Et je pense que c'est toi qui me disais hier qu'aucun de ces quatre joueurs-là n'a déjà atteint la finale d'un Masters 1000. Alors, il y aura un de ces quatre-là qui va vivre première.
Oui. Tout à fait.
Ça va être intéressant de voir.
Et qui sait si l'histoire Cendrillon de Draper ne l'amènera pas jusqu'en finale?
Ça se pourrait.
C'est le gars qui roule cette semaine, là, c'est clair.
Alors, ce sera peut-être une finale Félix Auger-Aliassime contre Jack Draper. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir, une demi-finale surprise assurément du côté du bas du tableau et du côté du haut du tableau. Et du côté du bas du tableau, on va avoir une demi-finale complètement spectaculaire.
Oui.
À Toronto, mon cher Hugues, c'est terminé pour Bianca Andreescu. Cela dit, est-ce qu'on est quand même rassuré par ce qu'on a vu cette semaine? Est-ce que son match contre Haddad Maia nous rassure quand même?
Tu parles contre Zeng hier.
Contre Zeng, excuse-moi,
Bianca a eu une bonne semaine. Sa victoire contre Alizé Cornet, qui avait battu Garcia juste avant. C'était une belle victoire en 3-7. Sa victoire au premier tour aussi contre la championne de la semaine précédente nous démontre une Bianca en forme. Hier, elle avait l'air un peu fatiguée physiquement.
Elle avait
de la difficulté à tenir le rythme avec Zeng, qui m'a étonné. Pour moi, c'est une découverte aussi, là, cette grande et puissante chinoise extrêmement régulière qui est en train, elle aussi, d'éclore en ce moment. Je pense qu'elle est partie pour faire une bonne série avant l'US Open et peut-être un très bon US Open. Mais Bianca, on peut dire quand même mission accomplie, mais dans son retour qui se poursuit, il faut qu'elle puisse tenir le rythme avec des filles comme Zeng, parce que hier, elle s'est fait un peu épuisée sur certains points. On voyait après 6, 7, 8 frappes, elle n'était plus dans l'échange, elle se faisait dominer. Et c'est là où on voit la limite un peu de Bianca, mais elle a très bien joué cette semaine quand même.
Ben, ce qui est encourageant, c'est qu'elle a avancé dans le tournoi, première des choses, qu'elle a joué des longs matchs et qu'elle a tenu le rythme dans ses longs matchs pour l'essentiel. Ouais, alors,
deux longs matchs.
Déjà, ça, c'est positif. Parce que déjà, Bianca, on ne sait jamais. Il y a toujours un point d'interrogation avec elle, à savoir si elle est en forme, s'il y a des blessures. Enfin, on verra. Je pense que Ki Wenzhen, on va en entendre parler beaucoup aussi.
Et je serais pas surpris. Quelle belle joueuse.
Oui. Et je ne serais pas surpris de l'avoir avancé, comme tu dis, au US Open. D'autres filles qui sont encore dans le tableau. Il y a beaucoup de matchs intéressants du côté des femmes. Moi, le match qui m'allume le plus du côté de Toronto, tu ne seras pas surpris d'apprendre que c'est celui de Coco Gauff contre Simona Halep.
Notre match popcorn du jour à Toronto, là, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, je le disais hier, c'est intéressant de voir Coco Gauff aussi qui commence à s'établir vraiment comme une joueuse dominante régulière là, au moment où Serena se retire. Moi, j'aime bien ce passage du flambeau qu'on voit en ce moment entre Serena et Coco Gauff. Et Halep qui revient en force. Son association avec Patrick Mouratoglou semble porter fruit déjà. Elle a l'air extrêmement fit, Simona Halep. Donc, un peu comme Mouratoglou a fait avec Serena, on sent qu'il prend en charge la deuxième partie de la carrière de Simona Halep. Simona Halep connaît une très belle séquence en ce moment. Coco Gauff, Simona Halep, tout un match. J'ai de la difficulté à choisir une gagnante.
Ouais, ça va être compliqué parce que bon, c'est difficile de parier contre Simona Halep au Canada parce qu'elle est très à l'aise. Elle a gagné deux fois, elle a fait une finale. D'ailleurs, elle a gagné deux fois à Montréal, elle a fait une finale à Toronto.
Juste.
Alors, c'est une fille qui est visiblement très à l'aise au Canada, qui a aussi un certain support de la communauté roumaine quand elle vient ici au Canada. Mais Coco Gauff, comme tu le dis, C'est une finaliste de Grand Chelem maintenant. Et les résultats spectaculaires s'en viennent, on le sent. L'éclosion spectaculaire qu'on attend déjà depuis quelques années, parce qu'on a l'impression qu'elle est encore, que ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit, parce que ça fait longtemps. Elle joue pro depuis qu'elle a 15 ans. Alors, mais elle est encore tout jeune. Là.
Sa victoire, Alex, contre Sabalenka, hier, c'est le match le plus long de sa carrière. Donc là, il y a des milestones, il y a des jalons qui s'établissent en ce moment pour elle aussi. Donc, elle devient... Elle prend évidemment de la maturité, là, mais elle est prête. J'aimerais qu'on parle de Haddad Maia aussi. Puis pour te citer, ça relativise la défaite de Leila Fernandez parce que c'est quand même une joueuse, Haddad Maia, qui joue super bien cette semaine, qui se frottera à Bencic aujourd'hui. C'est une des belles histoires du tournoi à Toronto aussi. Là.
Ah, ben ça, c'est certain. Écoute, je pense pas que beaucoup de monde, en dépit du fait qu'elle est classée assez haut, 24e mondiale, mais elle a gagné beaucoup de points dans la séquence sur gazon. Elle a eu une bonne séquence sur gazon, elle est allée chercher deux titres. Alors, elle a monté rapidement dans les classements grâce à cette séquence-là. Ouais. C'est pas la joueuse avec la plus grande notoriété, là, pour être bien honnête.
Ça viendra.
Mais c'est quand même une fille du top 25 mondial. Ouais. Et vous allez l'entendre parler de plus en plus souvent de cette fille-là. Mais elle a tout un défi aujourd'hui contre une ancienne championne de ce tournoi-là au Canada, Belinda Bencic, qui est 12e mondial. D'ailleurs, ils ont joué une seule fois, une contre l'autre, et c'est Bencic qui l'avait emporté.
Elle joue bien en ce moment, Bencic. C'est une bonne année pour elle. C'est elle qui a battu assez sèchement Serena en début de semaine. Donc, ça sera intéressant de voir cette confrontation-là.
Oui, c'est vrai. C'est elle qui a mis fin à la carrière de Serena au Canada. Bencic a remporté le tournoi de Charleston un peu plus tôt cette année. Et je vous le disais, Béatrice Haddad Maia a connu une excellente séquence sur gazon parce qu'elle a remporté Birmingham et Nottingham. Elle a fait aussi une finale, si je ne me trompe pas, encore une fois sur gazon. Alors, ça va être intéressant. Est-ce qu'on assiste à l'éclosion? L'éclosion, en façon de parler, parce que quand t'es 25e mondial, t'es déjà... T'es pas mal arrivé.
Ouais.
Mais enfin, est-ce qu'elle va marquer l'imaginaire des gens avec son nom? On va retenir son nom à partir de maintenant? Moi, je pense que...
Oui, moi aussi. C'est intéressant de voir ces nouvelles joueuses. Encore une fois, le côté féminin semble toujours un peu plus ouvert que le côté... masculin, donc j'aime bien voir ces nouvelles joueuses. Des joueuses très complètes qui prennent la balle très tôt. Il y a un changement dans la façon de jouer du côté féminin qui s'opère en ce moment. Les filles attaquent beaucoup plus, vont prendre des balles à la volée à mi-terrain pour conclure le point. Beaucoup d'agressivité dans le jeu. Là. C'est vraiment intéressant ce qui se passe.
On va checker si part. Il y a des gens qui se sont joints à nous. Nous, on est concentrés sur notre truc, mais on va répondre à quelques questions. Que pensez-vous des commentaires de Kyrgios envers Félix? Ben, il a été élogieux, je pense, à propos de Félix. C'est quand même intéressant parce que, bon, Nick Kyrgios n'a pas nécessairement la langue dans sa poche. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Si on peut avoir une demi-finale entre les deux, en tout cas, on va avoir... tout un
spectacle.
Match. Ouais. Problème physique pour Bianca. Sam Ganji nous demande... je pense pas.
Une raideur au dos qu'elle a eu à sa nausée, mais je pense pas que ça soit très, très grave.
Et en conférence de presse, après sa deuxième victoire, elle s'est fait demander. Elle a dit non, c'était correct. Ouais. J'étais à l'aise. Et hier, on l'a vu grimacer à quelques reprises, mais ce qui est à peu près systématique dans le cas de Bianca Andreescu, c'est rare qu'on la voit jamais sans inconfort là, sur un terrain de tennis.
Puis on dirait que c'est quand, dans une situation où elle est bousculée, où elle a l'air à bout, qu'elle sort des trucs incroyables. Encore hier, qu'on disait un très bel échange, elle se retrouve à tomber sur le dos, elle se relève, elle réussit à aller chercher la balle de l'autre côté du terrain pour faire un superbe coup gagnant. Donc, on dirait que Bianca puise dans ces moments-là pour aller chercher son meilleur tennis.
Je prends une seconde, Hugues, pour parler de Jackie Simard qui commente ici. C'est un gars qui trippe sur le tennis, qui gère des pages de tennis aussi. Alors, je salue Jackie, tu trippes aussi sur le hockey junior, je le sais. Alors, on a beaucoup d'intérêts communs. On ne se connaît pas personnellement, mais on s'est déjà parlé à quelques reprises. Je veux juste te dire, mon gars, lâche pas ton bon travail sur les médias sociaux. C'est beau de voir ta passion. Tu ne te gênes jamais pour venir jaser tennis avec nous. Ça nous fait absolument plaisir. Sam Gamji aussi, tu es probablement la personne qui est venue le plus souvent dans nos lives et ça nous fait absolument plaisir de jaser avec vous. Et puis, éventuellement, on fera des conversations avec nos fans. On vous invitera, les boys. Ça va nous faire absolument plaisir. Retournons à notre... preview, Hugues, parce qu'on a quand même une belle entrevue à vous présenter un peu plus tard, alors je ne veux pas trop qu'on perde de temps.
Rapidement.
On a parlé de Qin Wenzheng tout à l'heure. Elle va affronter Karolina Pliskova, qui est une ancienne numéro 1 mondiale. Un des très, très bons services sur le circuit de WTA. Mais quand même, c'est intéressant parce que là, Kaiwen Zheng peut avoir confiance de battre n'importe qui sur ce circuit-là.
Je pense que sa victoire contre Bianca doit lui avoir donné un autre petit boost aussi là, en termes d'expérience. Elle est très jeune, Zheng, il ne faut pas oublier. Mais Pliskova, je pense que c'est prenable pour Zheng de la façon qu'elle joue cette semaine.
Bon, ben, ça, c'est intéressant de ce côté-là.
Oui.
Et allons voir le dernier match du côté... des femmes qui sont là, celui de
Pegula.
Oui. Et Jessica Pegula avait fait la demi-finale l'année passée, si je me souviens bien, ici même à Montréal. Est-ce qu'elle peut avancer un tour de plus?
Une des favorites de notre collègue Nicolas Richard contre Putintseva ce matin. Je pense que Pegula va passer. On sait qu'elle aime bien cette série américaine aussi. Elle est américaine elle-même. Donc oui, je pense que Pegula est en bonne situation. Là, qui est la... septième favorite du tableau à Toronto pour passer aux demi-finales.
Tu vois, ça, c'est intéressant. C'est une fille qui a fait la finale à Madrid cette année, Jessica Pegula. Meilleur résultat pour Putintseva, la Kazakh, c'est une demi-finale à Budapest et Istanbul. Alors, oui. Écoute, deux joueuses qui ont quand même certains résultats probants. Et je te disais, meilleur résultat pour Jessica Pegula à Montréal, elle a fait effectivement la demi-finale en 2021. C'était l'année passée, on se souviendra, c'était un beau parcours, Jessica Pegula. Et je le rappelle, c'est une belle histoire, là, j'en ai dit souvent, là, mais cette fille-là joue au tennis parce qu'elle tripe sur le tennis. Elle n'a pas ses parents, sa famille est milliardaire, là, elle n'est pas obligée de jouer au tennis pour faire de l'argent. OK, prédiction, Hugues, quelle demi-finale on va avoir du côté des femmes?
Écoute, je te dis, j'ai de la difficulté entre Goff et Alep, mais Alep est tellement en forme en ce moment que je pense qu'elle va passer. Fait que je mise sur un Alep Pegula dans le bas du tableau et Zheng contre Bencic dans le haut du tableau.
Ben, je pense que je vais avoir exactement les mêmes demi-finales que toi, mon cher Hugues. Je te remercie infiniment, Hugues, pour ce bloc d'analyse sur ce qui se passe en demi-finale à l'Omnium Banque Nationale. Mais ton travail n'est pas terminé parce que, pas terminé. Façon de parler, hier, tu as rencontré une personne que les deux, on connaît bien, qu'on aime beaucoup, du nom de Enrico Ciccone, qui est maintenant député, on le sait, il travaille pour le peuple.
Oui.
De quoi est-ce que vous avez parlé ensemble, mon cher Hugues?
Donc, Enrico Ciccone, ex-collègue de TVA Sport, député de Marquette, porte-parole de l'opposition pour les dossiers sport et loisirs. Superbe entrevue avec Enrico. J'aime beaucoup la section où il nous a parlé de l'importance de pratiquer plusieurs sports et de ne pas choisir trop tôt, de ne pas se spécialiser trop tôt. Moi, je suis très, très en faveur de cette approche-là. Quand les enfants ont 8, 9, 10, 11, 12 ans, de leur faire faire le plus de sport possible, c'est bon pour eux, c'est amusant pour eux et ils vont développer des habiletés qui vont leur servir si jamais ils se spécialisent par la suite. Deuxième point, Nico nous a parlé d'accessibilité et de plaisir dans le sport. Deux éléments qui sont vraiment importants. Donc, très belle entrevue de Nabeco.
Oui, alors je vous laisse en compagnie de Hugues Léger pour une dizaine de minutes. Merci encore une fois à Enrico Ciccone qui a pris le temps pour venir nous jaser un peu.
Au stade,
c'était important
direct.
Pour lui de venir jaser de sport un peu avec nous et ça a été un grand plaisir de le recevoir. Alors, Hugues Léger en compagnie de Enrico Ciccone.
Au podcast sur la ligne, on reçoit Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de l'opposition pour les dossiers sport, loisirs et plein d'autres dossiers importants dans la même veine. Enrico, merci d'être avec nous. On est vraiment content de te recevoir.
Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'est toujours intéressant de se présenter ici au Stade IGA dans des grands événements sportifs à Montréal.
Enrico, on se connaît de longue date. Hein? On a travaillé ensemble à TVA Sport au début des années 2010. On voulait que tu nous parles un peu, justement, de ta relation avec le tennis, avec l'évolution de ce sport au Québec. Comment tu vois les dernières années qui ont vraiment amené ce sport-là à l'avant-plan dans le cœur des gens?
Mais c'est sûr que c'est intimidant de parler de tennis avec un grand connaisseur comme toi, mais je ne suis pas un grand connaisseur de tennis. Cependant, si je mets tout le sport en relation avec ma spécialité qui est le hockey, avec ma philosophie de voir des jeunes au Québec être multisportif. Quand tu es un joueur de hockey de haut niveau, mais c'est sûr et certain que tu vas être bon dans le golf, tu vas être bon dans le tennis, tu vas être bon dans d'autres sports. Et c'est pour ça que moi, je plaide beaucoup en faveur de faire beaucoup de sports. quand on parle du hockey, par exemple, quand on peut jouer au tennis, je fais la relation avec le tennis parce qu'on est ici aujourd'hui, mais au niveau des déplacements, au niveau des changements de direction qui sont sévères, hein, qui sont même violents au niveau, au niveau du tennis, mais au moins, on est capable d'apprendre d'autres choses, on est capable d'utiliser ça dans d'autres sports, ce qui est aussi la synchronisation, l'œil avec ta raquette, le bâton. Mm-hmm. Mais ça aussi, c'est des choses, c'est des réflexes qu'on doit développer au niveau des nerfs également, de réagir rapidement. Mais ça, ce sont tous des éléments qu'on va utiliser dans d'autres sports, notamment le hockey. Là.
Je suis vraiment content que tu parles de ça parce que bon, j'ai un enfant de 13 ans qui fait face aux mêmes questions à 13 ans, 12 ans, soccer, hockey, tennis. Et on voit que dans la réalité des programmes de développement, quand même, les fédérations tirent beaucoup. Ouais. Pour que les enfants restent spécialisés. C'est pas ce qu'ils vont dire, mais la réalité reste encore que si tu fais pas les camps d'été, tu décroches un petit peu par rapport au hockey ou au soccer ou au tennis. Là. Tu dois suivre ce rythme-là. Fait que je suis content que tu plaides pour ça. Puis je pense que les meilleurs athlètes aussi, souvent, sont ceux qui auront poursuivi une passion pendant plusieurs années avant de choisir. Puis souvent, ça va se passer vers 13 ans, 14 ans. Tu sais qu'un gars comme Roger Federer était excellent au soccer et il a dû faire un choix pour aller vers le tennis, justement, vers 13, 14 ans. Fait que je suis content que tu plaides pour ce dossier-là. Justement, bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Il y a des enjeux dans plusieurs fédérations sur la façon de coacher, sur la santé mentale, sur les enjeux justement de comment les enfants sont pris en charge pour arriver à performer au plus haut niveau. Est-ce qu'il y a des remises en question que tu vois en ce moment qui fait qu'il y a des réalignements là, sur l'approche au niveau du coaching et des jeunes athlètes?
Mais je pense que tu as utilisé les mots parfaits dans ta question, tu sais, de mettre la pression, performer à des hauts niveaux. Moi, je pense pas qu'on doit prendre un jeune et dire « on va faire un joueur de tennis avec lui, on va faire un joueur de hockey avec lui, ou un joueur de soccer avec lui, ou même un joueur de golf ». Si on commence à faire de la spécialité avec nos jeunes comme ça, mais veux pas, là, au niveau mental, les jeunes, je m'excuse, je suis pas un psychologue, je suis pas un neurologue, je suis pas un scientifique, mais les jeunes sont pas assez forts pour vivre ça.
Ouais.
Tu sais, quand la théorie des 10 000 heures ou des 15 000 heures, c'est complètement ridicule de penser, commencer à travailler avec des jeunes de cette façon-là. Ce qu'on doit faire, c'est que c'est justement, on met les jeunes dans le sport, mais au loisir, de façon pour avoir du plaisir, sans avoir à penser à la performance. Et quand le jeune a un talent, quand il a l'amour pour son sport, mais tu n'auras pas besoin de le réveiller le matin.
Ça va émerger, ça va venir.
Il va venir tout seul, il va le faire. Puis on dit toujours que la crème remonte à la surface, mais c'est en aimant ton sport, c'est en voulant le faire, pas que tes parents veulent que tu fasses ce sport-là.
Absolument.
Tu sais, à un moment donné, parce qu'il y a cette brisure-là, puis au niveau mental, c'est là que ça va casser en premier. Puis on le voit trop souvent. Puis avec ce qu'on a vécu dans les deux dernières années, Hugues, là, ça a été l'enfer, ce qu'on a vécu.
Ouais.
Ça a été, moi, tous les appels que j'ai reçus dans mon bureau, là, où il y a des mamans, les papas qui étaient en détresse pour leurs enfants, c'était... Puis j'offrais de parler à leurs enfants parce que je me disais... Je ne suis pas un psychologue, là, je ne faisais pas une intervention, mais je dis d'un ancien sportif, un sportif qui a vécu des moments difficiles, qui est tombé, qui s'est relevé. Tu sais, peut-être qu'on va être capable de communiquer. Puis j'ai fait ces interventions-là, puis ça a été très, très enrichissant. Mais on comprend aujourd'hui qu'il y a eu un manque d'alternatives pendant la pandémie. On savait qu'on était pour fermer. On a fermé une deuxième fois, une troisième fois, mais en fermant, là, on aurait dû trouver des alternatives pour en sauver le plus possible. Puis moi, malheureusement, c'est ça que j'ai trouvé ça déplorable qu'il n'y ait pas eu ça.
Oui, je t'ai suivi durant le dossier, durant la pandémie. Je trouvais que tu faisais une bonne job de pousser cette question-là, parce qu'il y a des enfants, dont les miens, qui sont adolescents, qui ont été perdus durant cette période-là, qui avaient perdu cette prise en charge, qui les motive autant pour l'école que pour leur sport, et ça a été une période compliquée. Donc, bon boulot pour ce que tu as fait durant cette période-là. Parle-nous un petit peu... bon, toi, il y a des élections qui s'en viennent. On va te suivre, évidemment. C'est une période importante qui commence aussi pour toi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi pour le reste de l'été?
Bien, c'est sûr que là, on est en campagne préélectorale, mais on est en campagne électorale la journée qu'on est élu. Parce qu'après ça, je veux dire, c'est ta réputation, c'est le travail que tu vas faire sur le terrain durant les quatre années subséquentes pour faire en sorte que les gens vont te connaître, vont t'apprécier, puis ils vont prendre la décision de te réélire ou non. Alors moi, je veux dire, je continue le même travail que je faisais, très, très, très présent dans mon comté. Je sens que les gens me le rendent bien aussi. Les gens m'ont adopté dans le coin de la Chine puis de Dorval assez rapidement aussi. Alors c'est le même travail, mais il y a des dossiers à pousser. Puis moi, tu sais, Hugues, je me lance pas en politique parce que je suis un politicien, parce que je dis toujours, là, vous avez le pire politicien devant vous. Parce que moi, je n'aime pas la politique. Ouais. Moi, j'aime les jeunes, j'aime les gens. Puis je veux. Puis moi, tout le jeu politique derrière coulisses, j'embarque pas là-dedans. Je veux rien savoir de ça. Moi, je suis arrivé là en mission. Il y avait un problème de sécurité dans les sports. Je voulais régler ce problème-là. Je trouve qu'il y a un manque insuffisant au niveau de ce qu'on donne, de financement au niveau du sport au Québec. 170 millions au Québec, là, c'est pas assez. Ouais. Il faudrait se rapprocher là, de la culture, du milliard. Parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'il y a des parents qui sont pas capables d'inscrire leurs enfants pour faire du sport. Clairement. Moi, chez nous, dans la Chine, je vais parler pour moi, là, on a évalué qu'il y avait à peu près 100-150 jeunes qui n'étaient même pas capables de jouer au soccer, pas parce qu'ils veulent pas, ils ne sont pas capables de payer l'inscription. Ouais. Aujourd'hui, en 2022, au Québec, là, il faut démocratiser le sport. Si tu as le goût de faire un sport, tu viens d'une famille monoparentale, tu viens d'un quartier défavorisé, mais tu as le droit de jouer au hockey si tu veux jouer au hockey. Tu as le droit de faire du ski, tu as le droit de jouer au tennis. Même si tu n'as pas de raquette, là, on va t'en trouver une. C'est comme ça au Québec. C'est ma vision des choses.
Je suis bien d'accord avec ça. D'ailleurs, j'étais heureux de voir que le Soccerplex de la Chine est toujours là. Oui.
Il y a eu des... C'est un gros dossier, ça. Ça a été un gros dossier.
Bravo, ça, c'est ouvert, c'est là. C'est une infrastructure qui sert à beaucoup de jeunes de la région. C'est une question qu'on a abordée avec Andréane Martin, qui est directrice générale de la Fédération de Québec, du tennis de Québec, donc Tennis Québec. Et Andréane nous disait qu'un de ses gros chantiers, c'est les infrastructures, justement, 12 mois par année. Donc, il y a toujours des besoins d'investissement au niveau infrastructure là, au Québec pour le sport. C'est très évident. Le coût des arénas, on a souvent parlé, c'est pas évident d'ouvrir une aréna. Ouvrir un centre de tennis dans une ville, si les autorités gouvernementales, municipales n'embarquent pas au niveau du privé, c'est presque impossible de rentabiliser ça. Donc, c'est des dossiers toujours importants pour toi, tout ce qui est infrastructure.
Bien, effectivement. Puis moi, il y a une chose que je comprends pas, parce qu'au fil des années, ça a changé. Moi, quand j'étais, Hugues, quand je suis arrivé au niveau midget 3A, ou hockey, mais là, c'est là que mes parents ont été soulagés au niveau financier. Parce qu'on dit, bien là, ton joueur, ton fils, ton enfant, il rentre dans l'élite. Ouais. Alors là, je comprends qu'il y a du privé dans ça, mais là, mes parents, ben, ils ont eu l'inscription, ils leur ont remboursé l'inscription parce qu'ils tombaient dans l'élite. Là, aujourd'hui, c'est le contraire. Plus on monte, plus on s'en vient dans l'élite, mais c'est pas l'État qui s'occupe de toi.
Non.
C'est les parents qui sont obligés de débourser des 7, 8, 10, 15, 20 000 piastres pour jouer le midget 3. C'est inconcevable, c'est impensable. Ouais. Si ça avait été comme ça dans ce temps-là, là, on se parlerait même pas aujourd'hui, parce que c'est impossible, impossible que mon père, que j'aurais joué au milieu 3, parce que mon père n'aurait pas été un immigrant, on était 6 à la maison, on travaillait 13-14 heures par jour, juste pour nous faire manger puis avoir un toit, il n'aurait jamais été capable de me payer une chose comme ça.
En tout cas, ce que je retiens, Enrico, accessibilité, plaisir dans le sport et la performance va arriver par la suite, mais c'est par là que ça commence. Enrico, merci beaucoup.
Merci.
Bonne fin d'été et bonne suite.
Et la démocratisation du sport au Québec, pour moi, là, j'espère que je vais le voir dans mon vivant. En tout cas, je vais travailler là-dessus du temps aussi longtemps que je vais être à l'Assemblée nationale. Merci.
Merci beaucoup, Enrico. Merci beaucoup. Enrico Ciccone, député de Marquette.
Merci, Hugues, pour cette entrevue. Félix n'est plus sur le... Félix est toujours sur le terrain en train de pratiquer. Écoute, avant qu'on se...
Je peux dire un petit truc?
Ouais, vas-y donc.
Félix pratique beaucoup de coups d'attaque en ce moment. Donc, j'ai l'impression qu'il va travailler à écourter les échanges contre Casper Ruud, qui aime bien échanger sur des longs rallyes, en fait. Là. Donc, je pense que ça donne une petite idée de l'intention tactique de Félix pour le match d'aujourd'hui.
Ben, j'allais justement te demander qu'est-ce que tu vois de cette pratique-là, parce que toi, tu l'as dans le visage. Moi, j'ai l'ordi dans le visage, un peu plus compliqué. Merci infiniment, Hugues Léger. On se retrouve demain pour la demi-finale. Si Félix est en demi-finale, ça se peut qu'on change un petit peu le concept parce qu'on risque d'être à la radio en direct pour une émission sur la ligne. Alors, pas trop. On n'est pas sûr encore de ce qu'on va faire. On ne fera pas d'annonce là, avant que regardez, on va faire quelque chose. On va être en direct soit à la radio, soit ici au podcast, mais on va être en direct quelque part. On va vous tenir au courant de ça. Et ben, Sam Gamji, ça nous fait... plaisir. Si jamais tu es sur le site, Sam Gadji te demande est-ce qu'il pratique l'amorti?
Non, il pratique des retours d'attaque et il pratique des échanges assez courts, en fait. Donc, il passe en mode attaque rapidement.
Sam Gamji, si tu es sur le site, tu reconnais la casquette sur la ligne, tu nous reconnais, nous, viens nous serrer la pince, ça va nous faire absolument plaisir de jaser tennis avec toi. Sur ce, Hugues, ben, Nicolas Richard n'est pas là, je te donne le mot de la fin.
En direct du studio, Mazda des Sources, Delary, bon quart de finale à tout le monde. Bon tennis aujourd'hui, il devrait faire beau. À plus tard, tout le monde.